Sur les chemins,
sur les chemins,
sur les chemins,
à bicyclette,
nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand,
il y avait Firmin,
il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue sur Radio G, votre émission Il est l'heure, Monseigneur, un lundi sur deux. Je suis avec toute l'équipe au complet, pratiquement. Bon, comme d'habitude, Ricardo va arriver un petit peu plus tard, j'espère. Bonjour Jean-Jacques.
J'ai une déclaration solennelle à faire.
Très bien.
Je suis très content d'être ici.
Merci Jean-Jacques.
Et on est très content de t'avoir avec nous aussi.
J'ai cru qu'il était candidat à la présidence.
Premier ministre.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour Raphaël et bonjour à vous tous.
Josiane, on t'a entendu.
Oui, ben
voilà.
Oui.
Et puis Marc, bonjour.
Ouais, bonjour.
Il est de retour.
Youpi.
Alors, Marc, on va commencer avec toi et la petite phrase du jour.
Oui.
Que vas-tu nous dire pour nous inspirer aujourd'hui et cette semaine?
Eh bien, je vais vous citer une phrase d'Albert Einstein. C'est du costaud.
Pas n'importe qui. Hein.
Il est plus facile de désagréger un atome que de briser un préjugé.
Ça dépend pour qui, mais bon.
Je suis quand même assez d'accord.
Oui. Mais dans ce monde justement qu'on évoque, avec un peu des fois un peu délicat, difficile, les préjugés, il y en a de plus en plus, hein, les uns envers les autres.
Mais il s'y connaissait en science, ce monsieur.
En tout cas, il avait la capacité de désagréger les atomes, et il s'était rendu compte qu'effectivement, entre les êtres humains,
difficile.
Des fois, c'est plus difficile.
Et ça comment, avec un marteau?
Voilà, donc voilà la phrase que je vous propose.
Comme bon. Sur tes positions.
Bon, les préjugés, je crois qu'on en a tous, hein, de fait. Ouais. Hein. Et souvent, c'est un peu de l'ignorance ou de la méfiance. Comment on peut qualifier les préjugés? Pourquoi a-t-on des préjugés?
Avoir trop de certitudes par moment.
Ouais.
Bon, et puis ça évite de réfléchir.
Ah, c'est,
oui, voilà. Puis on se base souvent sur les apparences.
Ce serait une économie d'énergie. J'avais jamais vu ça
ça.
Une espèce de confort, en fait.
Oui,
hein.
Ça t'évite de réfléchir
puis,
par toi-même.
Les préjugés sur l'apparence, alors qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, la personne, c'est nul.
Bon, voilà. Ça va nous alimenter un petit peu le débat cette semaine. Bon, on va écouter la première chanson pour découvrir le couple mystère. Alors, cette semaine, je suis pratiquement sûr de coller mes chroniqueurs. Et on va aller plutôt...
Une honte.
Ça va être rigolo.
On va aller sur un couple célèbre malgré lui. Il n'a vraiment pas choisi de la célébrité, mais pour autant, on en a parlé dans le monde entier. Au Japon, au Canada,
wow.
On en a vraiment parlé partout. Je vous propose d'écouter tout de suite la chanson de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». À tout de suite.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Du même quai, les yeux dans les mêmes reflets, pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
C'était Francis Cabrel avec « Je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Et l'indice de la chanson, c'est la temporalité. Effectivement, aimer dans le passé, aimer au présent, aimer dans l'avenir, c'était la promesse de ce couple. Donc, j'espère que ça aidera aussi nos auditeurs. Je dois dire que pour l'instant, l'équipe sèche un peu là en face de moi.
Hein. C'est très très ancien.
Alors, le couple est décédé hein, et ils sont tristement célèbres depuis une trentaine d'années. Voilà.
Tristement célèbre. Tu pèses tes mots là ?
Oui, je dirais tristement célèbre. Bon, Josiane,
oui.
Je t'ai un peu oublié la dernière émission.
Allez, vas-y.
Est-ce que tu peux nous faire deviner quelques expressions du cru ?
Comme je voulais pas être susceptible, j'avais dit je m'en parlerai pas.
Alors là, en plus,
ah non, mais
il est plein de bienveillance.
Et je m'en suis voulu, pardon. Nous t'écoutons.
Bon, eh bien, je vous propose des petites phrases à partir d'un des membres qui nous constitue notre tête.
La tête.
Que la tête.
Que la tête.
Alouette.
Alouette. Alors, être têtu.
Avoir une tête de cheval.
Non.
Tête de cochon.
Oui. Et il n'était pas loin, c'est une tête de mule aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Faire preuve de bon sens.
Ça, c'est inconnu ici.
Faire preuve de bon sens.
C'est pas avoir la grosse tête, mais...
Non.
Avoir
la tête sur les épaules.
Oui. Voilà. Par contre, être vaniteux.
Avoir la grosse tête, c'est ça.
Voilà, d'accord. Tout à fait. Être débordé. À nos âges, on est débordé par un...
Ne plus savoir où on met la tête.
Très bien. Très bien.
Oh, mais vous vous êtes vu avant, là.
Et donner une correction à quelqu'un.
Alors là,
faire un coup de boule.
Non, ça pourrait, parce que boule, la tête... Non, mais c'est pas ça.
Alors, celle-ci, je l'ai pas, moi, Josiane.
donner une correction à quelqu'un, c'est lui mettre la tête au carré.
Ah, ouais. Ah c'est vrai. Très bon, très bon, très bon.
On était loin de la boule, hein.
Alors, par contre, quelqu'un qui est à la fois dur et généreux.
Là.
Par rapport à la tête?
Oui, il y a une partie de la tête. Non, et une autre partie du corps.
Je sèche.
Avoir mauvaise tête et bon cœur.
Ah oui.
Voilà.
C'est vrai que ce sont des expressions qu'on entend peu souvent.
Ouais. Se moquer de quelqu'un.
Avoir une tête de turc?
Non, c'est pas celle-là. Mais ça pourrait.
Ça aurait pu.
Se payer sa tête.
Ah
bah oui.
C'est tellement ça.
C'est tout bête.
Et puis le dernier, tout ce que je vous raconte, ça n'a
ni
queue ni tête.
Bon ben voilà.
C'est bien.
Excellent.
C'est un bon cadeau.
Merci Josiane pour ces petites devinettes sur lesquelles on n'est pas toujours performant, mais aujourd'hui il y a pas Ricardo, c'est normal. Bon, pour la séance du jour, je voulais aborder avec vous un pour ou contre la science-fiction. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui? Alors la science-fiction, ça a toujours été, hein, depuis le plus célèbre pour moi, ça reste Jules Verne. Mais,
complètement, oui.
Mais aujourd'hui, Spielberg. Il y a encore beaucoup d'auteurs ou de films de science-fiction. Est-ce que c'est un art qui vous plaît ou vous déplaît?
Alors moi, ce qui me plaît dans la science-fiction, c'est quand ça reste simple, quand ça reste cohérent, enfin cohérent, et surtout assez près de ce qu'on vit actuellement. Parce que quand il y a trop de je m'y retrouve plus. Je trouve que ça me perd un peu, quoi. Les mondes parallèles. Non, j'aime bien quand même. Mais quand c'est sur d'autres planètes, quand il y a des personnages, c'est remarquable au niveau technique, au niveau image. Mais je veux dire, je préfère. Je me souviens. Vite fait, hein. À la télévision, quand il y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc, je me rappelle d'un truc qu'on nous avait montré, et je crois que c'était un jour de grève. Donc de temps en temps, ils faisaient des bons spectacles. Parce que à ce moment-là, jour de grève, ça voulait dire qu'ils mettaient un programme. Et je crois que c'était un téléfilm suisse. Et c'était quelqu'un qui avait inventé un système. Il y avait un système qui faisait que il vivait et les autres étaient quasiment à l'arrêt, pas totalement. Alors, par exemple, mais c'était en noir et blanc, il y avait de l'extérieur.
J'ai aucun souvenir de ça.
Il ouvrait une voiture, par exemple, qui roulait, puisqu'il regardait le compte, putain, il roulait à 70. Alors qu'en fait, eux, ils vivaient. Mais par contre, ils vieillissaient très vite.
Après, alors, par exemple, une des plus vieilles séries de télévision de science-fiction, c'est Doctor Who, qui a dû apparaître dans les années 50, si je dis pas de bêtises.
Ah, c'est très vieux, mais c'est vrai. Et je regrette d'être passé à côté. Et je commence à m'y remettre un petit peu. Mais je suis, parce qu'il y a eu énormément d'acteurs qui ont incarné le Docteur Who. Mais ça continue encore. Mm-hmm. Ah non, c'est peut-être fini. Je sais pas si
ça tourne encore. Est-ce qu'il y a un film de science-fiction? Alors, tu parlais d'univers parallèle, donc du coup la physique quantique. Voilà, on n'a pas la culture de Albert Einstein, donc on va rester sur nos préjugés.
Oui. ce que j'aime bien dans les science-fiction, c'est le voyage dans le temps.
Oui.
Alors, il y en a eu un paquet. Hein.
T'es plus retour vers le futur ou bien
ça dépend.
Un jour sans ça, oui, le retour vers le futur, ça c'était vraiment sympa, ça.
Oui.
Ça j'aimais bien.
Jour sans fin.
Oui, le jour sans fin.
Jour sans fin.
Oui.
Je prends bien.
Tu reprends.
C'est pratiquement une comédie romantique fantastique.
Oui, ça c'était chouette.
Et alors, du coup, dans cet art de la science-fiction, est-ce qu'il y a une œuvre que vous privilégieriez?
Il y avait pas le feuilleton qui est très très vieux, qui date des années 60.
Quoi, les envahisseurs?
Oui, les envahisseurs, par exemple.
Ils cherchaient un chemin qui ne jamais.
Ça tenait Star en haleine.
Trek,
c'était
Star Trek aussi, des choses comme ça. Ouais.
Comment?
Star Trek.
Oui,
Star
tout
Trek.
À fait.
Ça a été après, mais c'est vrai que les envahisseurs ont commencé
envahisseurs,
avec Monsieur Vincent.
Il y avait le numéro aussi.
Les inconnus avaient fait un truc avec les doigts.
Et puis il y avait pas un feuilleton qui s'appelait le numéro ou je sais pas quoi, le 5.
Je ne suis pas un numéro, je suis le prisonnier.
Le prisonnier
avec Patrick McGowan.
Ouais. Je ne suis pas un numéro.
Voilà.
Je suis un homme libre.
Ouais. Bah oui, donc.
C'était assez flippant d'ailleurs à l'époque.
Ah bah il y avait aussi un truc mi-fantastique, c'était sur une île où
L'île fantastique.
Il offrait à des couples, enfin ou à des gens, de réaliser leurs rêves. Mais avec des conditions bien particulières, il y a des fois, c'était assez.
Oui. Bah, dans ces cas-là, oui, c'est sympa. Alors, mais il ne faut pas que ce soit trop terrorisant.
Oui, la nuit du chasseur, par exemple. Là.
Oula, alors là, c'est terrorisant.
Non, non, ça, c'est pas pour moi, ça.
Mais en 2023, je suis allé au cinéma, je suis retourné au cinéma en 2023 et je suis allé voir Le règne animal avec Romain Duris. Et c'est vrai que c'est des choses qui paraissent tellement improbables. Et pourtant, quand on fait bien attention, on est sur le point d'y aller. Quoi. L'homme qui se transforme en autre chose, qui n'est plus tout à fait l'humain, mais qui n'est pas tout à fait un animal. Malheureusement, j'ai l'impression que certains scientifiques un peu fous peuvent y travailler.
Il y en a qui jouent à l'apprenti sorcier. Hein.
Non, mais naturellement, ça va se faire. Ouais. En plusieurs milliers d'années ou millions d'années, on n'était pas comme ça avant.
Prennent la place des humains.
Qu'est-ce qu'on sera quand nous, si on est, si l'homme vit encore dans 100 000 ans, dans un million, qu'est-ce qui sera devenu?
Après, dans la science-fiction, effectivement, il y a plusieurs tendances. Hein. Il y a le possible et puis le fantasme.
Bah le fantastique complètement.
Oui. Le fantastique.
Et un des films que j'ai revu il y a pas très longtemps, c'est Le Soleil Vert.
Ah oui, avec Charlton Heston et.
Oui. Et là, franchement, effectivement, il décrit un futur mais qui est
angoissant.
Oui.
Et c'est marrant parce que moi, c'est vrai que ce film, je l'ai vu, mais à sa sortie, hein, dans les années 70. Hein, et la séquence que je préfère, qui m'est restée dans la tête, c'est justement, tu sais, quand on leur montre des images magnifiques au cinéma, et je veux dire, ces images de nature et tout ça, on veut qu'ils meurent heureux.
Ça ira mieux demain. Hein, bon. Okay.
Moi, la science-fiction, je suis plutôt lecture. Au niveau de la lecture, j'aime beaucoup prendre les trucs de science-fiction. Alors, en ce moment, là, il y a quelqu'un. Alors, je suis pas au bout, hein, parce que on m'a offert le premier tome, il y en a 8. Mmh. Ah ouais, il y en a au moins 4 qui sont pas encore écrits. Je ne sais même plus le truc, quoi. Mais en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est éternel.
Ah. Oh, mais l'éternité, c'est long, hein, surtout
alors,
vers la
c'est,
fin.
C'est épouvantable. ils sont trois comme ça, avec des caractères tout à fait différents. Et alors, en fait, ils retraversent. Il s'appelle Noah. Et donc, on a fait, parce qu'il a sauvé des gens au moment d'un plus ou moins d'un déluge, et c'est devenu, on l'a baptisé Noé, Noah. Hein.
Oui,
et il s'est retrouvé aussi à Babel, la tour de Babel. Donc, il a traversé.
Qu'il a gagné Roland Garros?
Il n'en est pas encore à cette époque-là.
Moi, j'aime bien le vin de noix.
Et puis, il a traversé la mer Rouge, peut-être, non?
C'est pas possible, parce que je crois que l'un des prochains, c'est avec les pharaons.
C'est vrai. Un personnage qui se balade comme ça dans des époques et tout, c'est de la science-fiction. Mais je trouve que c'est assez marrant.
Relu au niveau, en disant finalement, c'est devenu un mythe. Il y avait quelque chose de vrai au fond, quoi. Mais on en a fait une histoire, une légende et tout. Hein.
Tu parles de mythe, mais effectivement, le mythe, c'était aussi de la science-fiction. Les Odyssées d'Ulysse, ils rencontraient des choses qui.
Je trouve que par la lecture, c'est encore plus intéressant parce que tu peux te faire ton propre film.
Même les personnages, et tu les reprends. Tu peux savoir comment. Même s'il y a une quelconque description, tu les as dans ta tête. Toi.
Je trouve que la lecture, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et d'ailleurs, on a souvent été déçus par les adaptations en film, parce qu'il n'y a pas ça.
Ah oui, vaut mieux voir le film et lire le livre après. Alors, l'inverse.
C'est le contraire.
Moi, je préfère lire.
Si je veux regarder le film qui a été adapté du bouquin, je dis que c'est de la curiosité. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Oui. Parce que généralement, on n'arrive pas du tout à reproduire.
Parce que si j'ai lu le film, j'ai pas envie de lire. Enfin, ça m'est déjà arrivé de lire des bouquins quand même, mais ça m'intéresse moins. Mais parce que je sais comment ça se finit.
Devant.
Mais par exemple, le Seigneur des Anneaux.
Ah oui.
Cet ensemble-là, c'est donc Tolkien, mais qui a écrit des bouquins. Alors, moi, je sais que mon épouse, qui était prof de français, elle l'a étudié, mais elle trouve que les films sont d'un rendu bien meilleur que le bouquin lui-même qui est très long, des descriptions très longues.
Oui, ça peut être aussi l'inverse, hein, effectivement.
Par contre, ce qu'il y a dedans est bien retraduit dans les films et puis bien mis en valeur.
Est-ce que je peux donner, parce que moi je ne relis jamais un livre, mais je m'arrive, ou alors par inadvertance j'ai lu. Mais il y a qu'un seul livre que j'ai lu déjà trois fois et que maintenant qu'on parle de science-fiction aujourd'hui, j'ai envie de le relire, donc je vais le relire. Il est dans ma bibliothèque. Ça s'appelle Ripley.
Je connais pas.
Bah, Ripley, ça voulait dire, on y revient.
Puisque c'est Ripley.
C'est un très très bon livre. C'est vraiment un très bon livre. Mais, et je sais que je l'avais fait dire à ma
femme. De quel auteur?
Ben c'est justement, je m'en souviens pas. Mais je vous en reparlerai plus tard. Parce que n'hésitez pas à le lire. Mais et dire ce que vous en pensez. Parce qu'on peut faire une chronique littéraire un petit peu. Hein. Mais je vais dire que c'est quelqu'un qui alors toujours pareil, qui revit une journée. C'est une journée sans fin. Mais non, c'est une nouvelle vie. Et ça se renouvelle. Il meurt à chaque fois. Et ça se renouvelle. Mais ça se raccourcit de plus en plus.
Ah oui.
D'accord.
Mais c'est marrant.
Bon, bah,
c'est marrant.
Je ne pensais pas vous mobiliser autant sur la science-fiction.
Bah, c'est de la science-fiction.
On va revenir à notre couple mystère et je vous propose d'écouter comme indice la chanson Chaud et froid de Pierre Louqui. À tout de suite.
Vous avez, madame, pour plaire, beaucoup mieux que le superflu. Si le mot n'était malvenu, je dirais, vous êtes une affaire. Dès que paraît votre personne, toute l'assemblée n'est qu'un cri. Et si vous paraissez sans bruit, c'est le silence qui frissonne. Avec vous tout devient magique, et la chaleur de vos contours fait que sans voyage exotique, on atteint aussitôt les tropiques. Bref, sans plus attendre, madame, avant même que vous me happiez, j'ai voulu tomber à vos pieds. J'y suis tombé, c'est là le drame. Devrais-je évoquer la fournaise, ou citer plutôt le volcan? L'une et l'autre, vous êtes autant, à savoir le feu et la braise. Mais vos effusions sont si tendres et si fervents vos sentiments, qu'après coup, invinciblement, plus d'amour renaît de vos cendres. Par vos bons soins, je me consume, mais mon bonheur n'est pas parfait. Arrêtez ma passion sans brume, stop avant que je n'attrape un rhume. Il est temps que je vous confesse la raison de mon désarroi. Oui, madame, pardonnez-moi, mais si chaudes que soient vos fesses. Oh là, oh là, oh là là, oh que vous avez les pieds froids.
Oh là là, que vous avez les pieds froids. Bah oui, hein, des fois sous les draps, c'est pas très agréable tout ça.
Surtout quand on les réchauffe sur le voisin.
c'est ça le problème. Bon, alors Pierre Louqui, vous le connaissiez.
Oui.
Moi, je le découvre un peu en préparant l'émission.
Mais
c'est une référence, effectivement. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce personnage?
Moi, je savais que c'était un copain de Brassens, qu'il était un petit peu fantasque, un petit peu, ouais. Et mais en fait, il a dû passer le cap des années 2000.
Bon, cette chanson-là, elle était enregistrée en 1996. Pour le coup, bien après le décès de la femme du couple mystère. Et si ça peut vous aider, c'est un couple du Maine-et-Loire. Voilà. Si je vous parle de Nueil-sur-Layon, est-ce que ça vous parle?
Nueil-sur-Layon.
Ben, Nueil-sur-Layon.
Oui, je connais Nueil-sur-Layon.
Ah, ça y est,
Et alors, ils ont une rue, alors
non? Ça y est, j'ai deviné.
T'as deviné?
Alors, vas-y, donne-nous un indice, voir si on
c'est
est bien.
C'est une histoire, ça pourrait être une histoire d'un homme qui a congelé sa femme.
Ah oui! Le docteur machin le truc chouette, là.
Oui, mais machin truc chouette, c'est que
ça. Oui, il a mis sa femme au congélateur.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a eu un problème parce qu'il voulait supprimer ce truc-là, on voulait la ressortir.
Oui, il y a une histoire tout ça.
Oui,
mais...
voilà, c'est ça.
Bon, bah voilà, mes chers auditeurs.
Il était gynécologue, je crois.
Je vais jamais réussir à les coller, c'est
ça
infernal.
C'est en Maine-et-Loire, ça.
Oui.
Ah oui. Ça a fait un truc, un buzz.
En 1984, Monique Martineau est décédée d'un cancer. cancer à l'âge de 49 ans et son époux qui était médecin, généraliste.
Crois même qu'il était gynécologue.
Alors, peut-être qu'il faisait les deux, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il a voulu préserver le corps de son épouse pour pouvoir, on va dire, la soigner ultérieurement quand on aurait les solutions. Donc, Madame Martineau, elle a fini à moins 65 degrés. Et voilà, bon, c'est pour ça que je voulais aussi parler de science-fiction.
Elle est toujours à moins 65 degrés.
Non, depuis, alors.
Non, je crois qu'elle
a été jugée et en fait, il y a eu des recours et le fils a fait tout ce qu'il pouvait pour respecter la parole de ses parents. Et c'est un malheureux incident qui a eu raison d'eux, malheureusement.
Panne d'électricité.
Exactement. Oui. Il y a eu un chantier qui a coupé la centrale et pour le coup, il n'y a aucun dispositif d'alerte qui s'est mis en route. Mais effectivement, le couple, madame est décédée en 1984, si je ne dis pas de bêtises, et monsieur est décédé en 2006.
Mais lui, on lui a reproché quelque chose ?
Eh bien, en fait...
C'est illégal, mais
non, c'était pas illégal quand il l'a fait, parce qu'il n'y avait pas de jurisprudence, en l'occurrence. Ouais, ouais. Et le fait est qu'il n'avait pas tout dit, parce que quand il est décédé à l'hôpital, il a demandé à ce que son épouse soit inhumée dans la crypte de leur domaine. Et le fait est que c'était pas une inhumation classique. Hein. Il l'a congelé, et c'est quelque chose qu'il avait programmé depuis longtemps. Il avait fait un congélateur pour cryogéniser trois personnes, donc le couple et leur fils unique, et de fait c'est son épouse qui y allait en premier.
Et le fils était au courant de ça?
Eh bien oui, il a été impliqué dès le plus jeune âge, certainement, et il a tout fait pour faire respecter la parole de ses parents. Donc son père a été aussi cryogénisé, et c'est un peu ce qui a fait, monter la sauce, c'est que c'est un agent des pompes funèbres qui est venu recharger le frigo, qui aurait, mis sur la place publique ce sujet, n'en était pas
un
auparavant.
Aurait dû rester un petit peu...
Bon. Pour faire de l'humour un petit peu noir, j'espère que ça n'a pas inspiré les courgeots.
Je dirais que moi aussi, pour faire un peu d'humour, c'est un fait divers.
des apostrophes, bien sûr.
Ça s'est passé en plein hiver, mon pédo.
Merci Marc, je ne l'avais pas celle-là. Tu me l'as grillée.
Elle m'est venue comme ça, mais bon.
Bon, chaud et froid, donc du coup, Pierre Louki, il était à fond dedans. Elle avait les pieds très froids, madame. Vous êtes pas drôle, vous devinez tout le temps. Sur quoi je peux vous sécher maintenant? Je vais parler de quoi? De YouTube? De quoi?
Bon. Non, c'est intéressant.
Non, au contraire, ça nous remet en mémoire certains événements.
Et puis l'idée d'aller chercher en dehors des personnes célèbres.
Oui, tout à fait.
Direct classique.
Il n'empêche que ça pose question, effectivement, comment on voit sa propre fin.
Bien sûr.
Et est-ce que notre propre fin aujourd'hui est possible? Il y en a qui rêvent d'être compostés, il y en a d'autres qui rêvent d'être brûlés, d'autres qui rêvent d'être...
Alors, vous avez vu, bien sûr, le film Hibernatus, hein.
Lui, on en parlait tout à l'heure.
Il rêve qu'on le recongèle pour foutre le camp, parce que vraiment...
C'est d'actualité avec toute la réflexion sur les fins de vie.
Je ne l'avais pas dit à Josiane tout à l'heure quand on est venu ensemble, mais c'est la musique du film Hibernatus, c'est la dernière chanson de l'émission.
D'accord. C'était
pour,
bien. Ce
pour
film,
rester dans le thème.
Bien.
Je vois qu'on a un humour absolument décapant.
Bon. Jean-Jacques, est-ce que tu veux nous faire une petite chronique publicité?
Alors, Color L. Color L, c'est de L'Oréal.
Oui.
Alors, vous connaissez, mesdames. J'ai décidé, à l'unanimité, de traduire ce que l'on entend, car ce n'est pas toujours audible, et ce serait dommage de rater les arguments de vente des réclames d'antan. Pour info, celle-ci date de l'année 1959. Donnez à vos cheveux l'enthousiasme de votre jeunesse, nuances jeunes et belles, nuances naturelles, c'est le sort merveilleux de vos cheveux. Oh. Colorel L'Oréal qui, je vous rappelle, fut créé en 1909 par Eugène Schuller. Et si ce nom de Schuller ne vous dit pas grand-chose, sachez que ce grand groupe aux multiples ramifications, les plus grandes marques de produits cosmétiques et autres produits de toilette tels que Cadom, Jacques Desange, Garnier, Lancôme, Cacharel, ce grand groupe, ce très grand groupe, on dit même que ce pourrait être le plus grand du monde, avec ses milliards de dividendes à distribuer. Mais je m'égare, encore une fois. Ce grand groupe, disais-je, fit parler de lui lors de la très célèbre affaire Bettencourt. Nom de famille des derniers héritiers de la marque. Colorel, L'Oréal.
Colorel, nuances jeunes et belles. Colorel, nuances naturelles. Colorel,
c'est le phare merveilleux de vos cheveux, de vos cheveux.
Savon Le Chat Ambré. Savoureuse pub où la voix très calibrée radio fait rapidement place à celle d'une dame provençale qu'on imagine avec tablier, prête à faire sa lessive. N'oublions pas que la marque Le Chat a été créée au début du XXe siècle par une savonnerie marseillaise et, depuis les années 80, fait partie d'un groupe allemand, Henkel. Donc, Savon Le Chat, Ambré.
Nous allons faire un petit concours avec vous. Faites bien attention. Quelle est la chose la plus douce et la plus agréable?
C'est un gâteau à la crème chantilly et à la crème de marron. Mmh.
C'est un solo de trompette dans un bon slow.
C'est le chant des grillons la nuit en Provence.
Mais non, vous n'y êtes pas. La chose la plus douce et la plus agréable, c'est le savon ambré Le Chat.
Pour la toilette des peaux les plus délicates,
savon ambré Le Chat.
Pour les savonnages des lingeries les plus fines,
savon ambré Le Chat.
Ah, c'est qu'il est d'une douceur et d'une efficacité surprenante, le savon ambré Le Chat.
Forcément, il contient 80% d'huile végétale sélectionnée.
Et ce savon ambré Le Chat, il faut voir comme il mousse. Des montagnes de mousse blanche, légère, douce et efficace.
Elle avait pas l'accent du Nord, la petite dame.
Ah bah non, hein. Ça me rappelle un peu Aurane de Mazy dans Marius Fagnier César. Hein.
Oui, alors là, nous allons évoquer trois marques, enfin au moins deux marques, qui ont complètement disparu. Plus de traces, pas d'historique, plus rien. Par contre, celle des vins Béran est chantée par Georges Milton, célèbre chanteur des années 30, aux nombreux succès tels que l'inoubliable Pouette Pouette, avec les pompiers ou la fille du Bédouin. Là, c'est sur l'air de « C'est pour mon papa ».
Le vin, c'est la gaieté, la bonne humeur. Voici ce qu'en pense Georges Milton.
À tous les repas, maman et papa boivent, c'est marrant, le grand vin Béran. Le Béran, c'est le vin des familles. Le Béran, c'est la joie qui pétille.
C'est parce qu'il a vieilli au soleil que le Béran, ce vin réputé, est incomparable. Demandez-le à votre fournisseur.
Soyez dans le mouvement, buvez du Béran.
Alors, les chaussettes Jeff, Jeff G.E.F. Je cite en français dans le texte. L'élégance au pied de la lettre doit commencer par le pied et se résume en trois lettres, G.E.F. Imparable comme argument publicitaire, non? J'ajoute qu'il était écrit aussi que ces chaussettes étaient élégantes, confortables et inusables. L'air sur lequel c'est chanté me dit quelque chose. Mais quoi? Ça vous parle?
L'élégance au pied de la lettre doit commencer par le pied. Elle se résume en trois lettres G, F, Jeff, Jeff.
Jeff.
Ça, c'est pareil. Hein.
On dirait du Disney.
Oui, inconnu au bataillon.
Vitaline. On ne fait pas de pain sans farine. On se porte pas bien sans vitaline. Super, dépuratif du sang. Dépuratif, sans blague. Quels mots ils utilisaient dans les réclames autrefois? J'ai regardé dans le Larousse, ils parlent bien à l'imparfait pour ce mot. Donc je n'ai pas de carence de vocabulaire pour ce mot, ça me rassure. C'est écrit. Se disait de tisane et de médication auxquelles on attribuait la propriété de débarrasser l'organisme de ses toxines et de ses déchets. Ok, mais maintenant, si Vigitaline, ne pas confondre s'il vous plaît avec Végétaline qui fait les frites plus digestes, moins grasses, moins huileuses, mais je m'égare encore une fois. Donc si la marque Vigitaline existe toujours, c'est avec des termes publicitaires valorisants qui nous invitent. Ingrédients de qualité et un sourcing exigeant, formulation pointue. Waouh, ça a changé là. Hein. Vigitaline, le remède miracle dont à propos, je ne suis pas sûr de l'avoir pas déjà évoqué. Vigitaline, ça me dit quelque chose.
On ne fait pas de pain sans farine, on ne se porte pas bien sans Vitaline.
Vitaline, super dépuratif du sang, est en même temps un tonique reconstituant. C'est le traitement par excellence des rhumatismes, douleurs, eczéma, maladies de la peau et toutes affections de la circulation du sang. Vieille formule, mais succès constant. Vitaline, la sentinelle de votre santé. En vente dans toute bonne pharmacie.
En vente dans
encore.
Merci Jean-Jacques. Bon, bah, ça, c'est des sons qu'on n'entend plus beaucoup hein, non, de non, cet ordre-là. C'est... Mais c'était sympa, merci.
Oui, mais on trouve toujours les ressorts de la pub. Hein. Une musique, quelque chose qu'on peut retenir facilement,
oui,
voilà. Qui nous touche.
Alors actuellement,
une histoire.
Moi,
une
je
histoire.
Me suis aperçu, bon, parce que comme on a vendu quand même pas mal de musique,
Jacques, n'est-ce pas?
On retrouve énormément maintenant des Beatles, des Rolling Stones,
oui.
des trucs comme ça. C'est des chansons connues, quoi. Oui. C'est des trucs.
Oui, et puis.
Musique de film.
Et dans la pub, ils utilisent énormément la musique classique aussi.
Ah oui.
Par exemple, pour le parfum avec le ballet de Roméo et Juliette de Prokofiev. Ça, c'est. On voyait les volets qui s'ouvraient, qui se fermaient pour un parfum.
Non, mais c'était le truc de Rachmaninoff, hein. Là, d'André Rieu, là. Ça, c'était pour la caisse d'épargne ou pour
la CNP.
Une banque ou le Crédit Mutuel.
Ah, c'est. Non, CNP. C'est Shostakovich.
Dimitri.
Dimitri Shostakovich.
Bon. Mais l'idée, c'est de rejoindre une émotion déjà vécue par les gens à travers la musique.
Et alors ça a été un air, mais absolument extraordinaire.
Je crois que ça a lancé un peu, d'ailleurs.
Oui, c'est tiré de la suite de jazz de Shostakovich. Oui,
bon. Alors là, on peut faire confiance à Jacqueline.
Bon, alors moi, je vais pas avoir votre culture musicale. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les morceaux historiques restent et sont toujours repris par les jeunes générations. Et je vous propose justement là d'écouter tout de suite une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel par deux chanteuses belges. Moi, je connaissais Célassou, mais je ne connaissais pas l'autre chanteuse. Je vais vous donner tout de suite le nom. Il s'agit de...
Roulement de tambour.
De Charlotte Adigéry. Elles ont respectivement 33 et 34 ans. Et là, vous allez pouvoir les écouter avec un orchestre philharmonique. Et franchement, ça donne un petit peu de lumière au morceau aussi. Et puis, ça va dans le sens de monsieur et madame Martineau qui ne voulaient plus se quitter. À tout de suite. Hein.
Insensé, que tu comprendras. je te raconterai l'histoire de soi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent jaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il un vieux volcan donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
C'était donc Ne me quitte pas par Charlotte Andigéry et Célassou. Alors, dans les préjugés, les jeunes, ils savent pas chanter, c'est ça? Bon, il y avait un silence religieux dans le studio, là.
Ah oui, hein, oui, c'était vraiment magnifique. Une harmonisation.
T'as voulu qu'on se taise, quoi.
Non, ça, j'y arriverai pas, Jean-Jacques.
<J'ai réussi.
rire> Non, non, bon, c'était vraiment très bien.
Puis deux voix différentes.
Oui. Oui.
C'est
ça
qui se... Non, mais l'orchestration, c'est quelque chose.
Ah, l'orchestration.
Hein. Je sais pas comment ils étaient, là. Mais non.
C'est bouleversant.
Un véritable orchestre philharmonique. Et franchement, oui, j'ai trouvé ça différent. Et voilà, oui. Donc, dans l'esprit de l'amour intemporel, ne me quitte pas.
Ah,
là,
ne me quitte pas.
Monsieur et
ça
madame.
Ça résume voilà. Tout. Hein.
Ouais, mais tu sais, il y a eu des adaptations. On dit toujours, c'est toujours l'original qui est le mieux. Mais là, c'est
mais
tellement
là,
différent.
Mais là, faut avouer que.
Mais c'est ça. En fait, je trouve souvent que les interprétations sont des copies.
Oh, souvent. Et, alors que là, pas du tout.
Exactement. Là, ne serait-ce que d'avoir une interprétation par deux femmes, ouais, plutôt que par un homme. Pas facile de remplacer le grand Jacques quand même. Hein.
Ah ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que souvent là, dans les adaptations. Là, je veux dire, c'est vraiment la chanson, même si elle est complètement orchestrée, tout ça. Alors que, il y a des fois, les chanteurs ou les chanteuses se permettent de changer les notes.
Oui.
Et ça, ça me gonfle, parce que là, il n'y a rien de plus beau que la mélodie qui est créée, quoi, d'origine.
Mais là, c'est, voilà, c'est.
Non, mais là, c'est
ils
très
ont,
réussi.
Ils ont enrichi l'interprétation.
Ouais, vraiment magnifique.
Jean-Jacques.
Vraiment bien.
Aurais-tu une petite chronique à choisir?
Oui, tu sais. Bah, non, ça, c'est toujours la même question.
C'est ça, j'ai toujours une petite tension quand même. Ah. Hein, des fois, tu me dirais non.
Alimentation. Alors, remarque, quand je dis ça, alimentation. Du nouveau sur l'étiquette des vins.
Ah.
Ce n'est pas encore le Nutri-Score, mais les bouteilles de vin produites à partir de fin 2023 devront porter de nouvelles. Alors, fin 2023, c'est fait.
Ça y est.
On est d'accord. On est bien en 2024? Oui.
Oui.
De nouvelles informations d'étiquetage. La profession a beaucoup résisté pour appliquer au vin les mêmes règles qu'aux autres aliments ou boissons. Les lois sur la réglementation du vin sont toujours difficiles à imposer aux professionnels de la filière en France. Pourtant, l'affichage d'informations nutritionnelles sur l'étiquette des nouvelles bouteilles est devenu obligatoire. C'est une directive européenne qui prévoit une information plus complète des consommateurs pour les produits de la vigne. Normalement, la liste des composants, y compris les additifs et leurs fonctions, doit être détaillée.
Oh.
Cette exigence n'a rien d'étonnant sur tout produit alimentaire. Mais pour le vin, il aura fallu négocier pendant plusieurs années pour définir un ingrédient.
Les professionnels ont ainsi obtenu d'écarter les auxiliaires technologiques, sauf s'ils sont allergènes. Parmi les viticulteurs, certains ont beaucoup résisté au nom de la tradition française qui devrait faire du vin un produit à part. Mais plus nombreux sont ceux qui approuvent plutôt pour valoriser leur production. C'est le cas dans la filière bio où l'on affirme n'avoir que la mention raisin à porter sur l'étiquette. Cela dit, l'information des consommateurs n'est pas vraiment garantie avec cette réglementation. En effet, le décret admet que ces indications figurent non pas sur la bouteille, mais sur un site accessible par QR code. Pour cette profession, la transparence a ses limites.
Bravo.
Mais pour le coup, sur l'histoire des vins bio, est-ce qu'ils le sont toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de seuil sur les produits qui feraient qu'il y aurait quand même des petits adjuvants ou
Il y en avait, hein. Ouais. Et je veux dire, tu sais, quand tu regardes un produit bio, bon, je veux dire que si tu regardes le Nutri-Score, bon, d'abord, il n'est pas forcément bon, il est même rarement réduit en sucre, en sel et tout ça, hein. Mais souvent, il y a d'autres produits, hein. Il y a d'autres trucs, hein.
Sachant que dans le vin, il y a le raisin. D'accord.
C'est ce qu'il
dit. Mais ça, c'est la production, la culture de la vigne. Mais après, il y a l'élevage du vin, c'est-à-dire que là, sa transformation de jus de raisin en vin et en alcool. Et là, dans ces cas-là, je ne sais pas si, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais au niveau des bio, si pendant la phase d'élevage du vin, il n'y a aucune introduction de produits. Ça, à voir. Hein, c'est.
Mais il y a une loi qui passe, il y a des choses obligatoires à mettre, on va voir ce qu'il en est. Là, je veux dire que ça va être quand même un peu plus transparent pour les consommateurs.
Oui.
Peut-être.
Mais c'est vrai que l'astuce de ne pas le mettre sur l'étiquette, mais sur le QR code, c'est pas mal vu quand même au niveau des
c'est une astuce, c'est roublard.
Hein. C'est roublard.
Après, moi, il y a une chose qui m'amuse beaucoup. Là, récemment, c'était le Beaujolais nouveau qui sortait, et ça m'amuse toujours quand j'entends il a un goût de banane,
oui, de fruits rouges ou de bien sûr.
C'est oui, les vins, ils sont pas toujours faits qu'avec du raisin, je suppose. Il y a parfois des assemblages qui ne sont pas mentionnés.
Comment ça s'appelle le truc qui est dans tous les vins?
Le sulfite. Oui.
Ça, c'est il y a des années qu'on le sait. Hein.
Oui.
Mais c'était pas marqué avant.
Dans tous les cas, effectivement, on va vers un peu plus de transparence, mais on y va étape par étape, c'est ça?
Sachant que le consommateur, il veut un produit qui bouge pas, qui soit parfait à chaque fois. C'est ça aussi, alors que c'est du vivant, le vin.
J'ai envie d'un produit bon et sain.
Et
voilà,
oui,
mais comme tous les consommateurs.
J'ai entendu le vin sans alcool.
Ça se démocratise, oui.
J'ai entendu un truc comme ça en me disant, bon, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, vous qui êtes né il y a quelques décennies, j'ai une histoire.
Quelques-unes.
Moi aussi, hein, cela dit.
Mais au ping-pong.
J'entendais que, effectivement, il y avait quand même la philosophie d'écouler des stocks fut un temps, et donc la communication sur le vin était facilitée autant que possible. Mais
Ah oui, puis il y avait même des publicités pour le vin qui étaient fort nombreuses.
Mais
d'ailleurs,
grâce à la loi Evin.
Evin, ça s'invente pas.
Ça s'invente pas. Hein. C'est Evin qui a fait la loi pour réduire un peu l'aspect publicité.
Evin, il est divin.
Mais oui.
Il y a eu des évolutions là-dessus.
C'est ça.
Mais bon.
Oui, mais j'entendais ce matin une chronique comme quoi les jeunes prenaient des canettes de produits vitaminés ou autres et qui en fait semblent être extrêmement dangereux pour la santé, dans la mesure où effectivement ils ont peu de mesures pour en boire modérément.
Alors effectivement, moi j'ai un ami qui est pompier et il disait c'est une catastrophe les boissons énergétiques associées à d'autres substances, ça fait un carnage effectivement.
Donc
c'est comme tout est bon avec modération.
Avec modération.
Tout est bon dans le cochon.
Bon. Non, c'est la dose qui fait le poison.
Exactement. Bon, là, je vais pas vous proposer du poison, je vais vous proposer une petite chanson douce, comme Michel Berger savait si bien les faire. Eh ben, non, là, c'est une chanson de Michel Berger. Et dans l'esprit de monsieur et madame Martineau, on va écouter Le Paradis Blanc. Ça nous ramène en hiver, encore une fois. Allez, à tout de suite.
y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats. Sans retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées. N'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant.
C'est reparti. Donc c'était Le Paradis Blanc avec Michel Berger. Bon, une petite chanson qui nous ramène 30 ans en arrière, celle-là. Hein. Une belle chanson de Michel Berger.
Il est mort il y a 30 ans.
Il y a 30 ans ? D'accord. Oui.
Au okay. moins 30 ans.
Il est décédé en août 80. 11, je crois.
Donc, il y a eu 30 ans, il y a 32
32 ans. Cette année. Non, mais 33 ans.
Je sais, j'étais en vacances. Sais,
moi aussi.
Ah, vous vous souvenez de ça, ce que
oui,
vous faisiez à ce moment-là.
Ça m'a tellement
marqué.
Il y a des événements comme ça.
Vraiment, surtout que je trouvais absolument. Que c'était un compositeur absolument extraordinaire. Il avait des mélodies magnifiques et vraiment, j'ai été très affectée de la mort
choquant,
de Michel.
Parce que, de toute façon, on s'y attendait pas.
Et
là,
puis, en plus, il est mort trop jeune.
Ouais.
Donc je sais précisément l'endroit où j'étais quand je l'ai appris.
Moi aussi.
C'est vrai que dans les artistes, c'est pas sur lui que j'aurais mis un billet à partir en premier hein, quand même. Hein.
Ah non.
Il faisait plutôt sain.
Oui, c'est ça.
Il était malade depuis des années.
Il y en a d'autres qui sont plus chargés et qui vivent plus vieux. Hein. Mick Jagger.
T'en comptes? La forme qu'il a, ce mec.
Johnny Hallyday.
Oui, mais enfin,
Johnny, oh bah Johnny, il a usé la vie par tous les bouts. Hein.
Il était moins sain, il a résisté plus longtemps.
Il prenait du vin sans modération, probablement.
Il était costaud,
ouais. Bon, bref.
Les amis, on a eu des morceaux un peu longs cette semaine. On va passer à la séance de culture sur Angers. Jacqueline, est-ce que tu as des choses à nous présenter?
Alors, il y a une exposition que je n'ai pas encore été voir, mais que je vais y aller. Ça s'appelle « Visages d'Anjou ». C'est une présentation de 48 parcours de vie d'Angevin et d'Angevine, de l'an 1000 jusqu'au 21e siècle. Ça se passe aux archives départementales de Maine-et-Loire, 106 rue de Frémur. C'est gratuit et c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h jusqu'au vendredi 22 mars 2024.
La rue de Frémur, c'est pas loin du théâtre Chanzy, ça.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Non. Donc on y parlera du bon roi René et
certainement
Chevrolier. Bon. Okay. Il y a un beau couvent là si tu veux aller. Enfin non,
d'autres événements culturels?
Non, pas.
Eh, c'est quand
pas
même
aujourd'hui.
C'est quand même beau la culture. Hein. Ouais. Eh, vous savez qui c'est qui avait dit quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. C'est ça?
Je ne sais plus. Mais je connais.
Goebbels.
Ouais. Ah oui,
bon, quelle horreur.
Il faisait pas très envie, ce monsieur. Hein. On va écouter un dernier morceau pour cette émission d'Il est l'heure, Monseigneur. Et on revient et à la science-fiction et à notre couple mystère, à savoir la bande originale du film Hibernatus. Alors, une chanson sans parole, mais voilà, ça me semblait d'actualité. Donc, je vous propose d'écouter ça immédiatement et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, c'était Georges Delerue avec la musique de la bande originale du film Hibernatus, un film de 1969.
Oh, Marc, t'imagines sur la finale, là ça fait tout à fait, tu sais, les énervements de Louis de Funès.
Ah, ouais. Oui, voilà. Bah, tout à fait.
Ouais, certainement.
Tu lèves bien le mollet, je trouve, encore pour ton âge. Hein. Le French Cancan, tu y as pensé? Bon, les amis, ça, on arrive à la fin de notre émission. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission d'Il est l'heure, Monseigneur, sur votre radio préférée, Radio G 101.5 FM, qu'on peut également écouter en DAB+. Et puis, vous pouvez même nous podcaster sur radio-g.fr. Donc, voilà. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Jean-Jacques.
Merci.
Merci, Josiane. Merci Jacqueline.
Merci Raphaël et merci aux auditeurs.
Et merci Marc.
merci, et aux auditrices.
Ah ben voilà. Ne les oublions pas, pas de préjugés entre nous. À bientôt.